Mondial Sport sur RFI. Martin Guez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au menu de votre Mondial Sport du soir, eh bien pas mal de football en Afrique d'abord avec la finale retour de la Coupe de la Confédération. Les Congolais de l'AS Vita Club qui accueillaient les Marocains du Raja Casablanca avec 3 buts de retard après le match aller. Une mission a priori impossible, on y revient dès le début de cette émission. On reviendra aussi sur la CAN féminine qui s'est achevée hier à Accra au Ghana. Une compétition qui a suivi sur place l'ancienne joueuse du PSG de l'équipe de France Candice Prévost qui nous donnera son sentiment. Du foot aussi en Europe avec le tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2020. On parlera également handball féminin avec le début de la CAN au Congo et de l'Euro en France. Et enfin, on garde un peu de place pour le dessert dans ce menu très copieux. Le Ballon d'Or, c'est demain. Un Ballon d'Or qui réveille Madrid. Reportage à la fin de ce Mondial Sport. Mais tout de suite, direction Kinshasa. Avec le coup de sifflet final pour la Coupe de la Confédération. Et pour en parler, on reçoit Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Martin.
Alors pas plus de suspense, on le dit tout de suite. Le sacre, c'est pour le Raja Casablanca. Les Marocains couronnés, mais ils ont eu très chaud face à l'AS Vita Club à Kinshasa.
Les joueurs de Florent Ibengué ont bien failli s'offrir la remontada dont ils rêvaient. Battu 3-0 lors du match aller, les Quinois se sont imposés 3-1 au retour. Insuffisant malheureusement. Kaboulo, Moana Kaboulo, vous êtes notre correspondant à Kinshasa. L'AS Vita peut s'en vouloir d'avoir pris un but très tôt.
Oui, tout à fait. C'est le but matinal qui a été marqué quasiment à la 20e minute par Apidi et qui va compliquer les calculs. Mais je dois reconnaître que d'entrée de jeu, Vita s'était quand même manifesté par beaucoup de pertes de balles, surtout dans l'entrée-jeu. Ce qui avait d'ailleurs favorisé le développement du jeu côté marocain avec un milieu de terrain composé de 4 joueurs et animé par Ibrahim Niass, Zakaria et par les Congolais Lema Mabidi et Abdelatif Afidi. Donc, dès fin d'instant, Tacklem avait perdu le contrôle au milieu du terrain et était utilisé par une autre faiblesse sur les côtés gauche où l'arrière Ngonda Mouzinga, à force de monter à l'attaque, a ouvert un couloir largement exploité, surtout par Rami. Donc, c'est ça qui a affaibli un peu Vecchiat, mais qui a tout de même obtenu l'égalisation dans les temps additionnels. Alors, à la reprise, là, Florent Ibengué a jugé utile d'apporter 2 changements. Rodigama sort, c'est sa place à Moukoko. Ducapel sort, c'est Mouzoukou Chada qui entre. Et cela apporte du tonus et dynamise l'attaque pour 2 buts marqués à l'espace de 5 minutes par Moukoko, Batezabio, Patrice et Ngoma. Mais la remontada n'était pas très très loin, mais elle n'est pas arrivée. Voilà. Je pense que ça a permis aux supporters d'applaudir les Marocains et de quitter tranquillement le stade de Martyrs en se disant bon, on attaquera la prochaine fois.
Kaboulo Moana Kaboulo en direct de Kinshasa. Désolé pour la qualité de la ligne. À noter que les Marocains remportent leur premier titre continental depuis la Ligue des Champions 1999 et tout simplement leur première Coupe de la Confédération.
Et le foot en Afrique, Antoine, c'est aussi la CAN féminine qui s'est terminée hier. Le Nigeria tout en haut de l'Afrique encore une fois. L'Afrique du Sud séduisante et un Mali ambitieux. La CAN féminine qui s'est donc achevée et qui a livré plusieurs enseignements. Et
un podium africain logiquement dominé par un Nigeria impérial mais menacé en finale par l'Afrique du Sud. Des Sud-Africaines qui auront fait jeu égal avec les reines d'Afrique. Le Cameroun termine 3e devant un Mali qu'on n'attendait pas à pareille fête. Premier bilan de cette 13e CAN féminine avec Tété Hadji.
Et de 9 pour le Nigeria. Pourquoi cela règne en 11 éditions des Super Falcons sur le football africain? Élément de réponse avec l'arrière central Nodine Sarah Amaka.
Je ne dirais pas qu'on doit seulement cette victoire à notre talent. On a été bénis toute la compétition. Ça n'a pas toujours été mérité, mais on était sous une bonne étoile. Maintenant, on est très excités pour la suite. On est qualifiés pour le mondial. Et on s'est très bien préparé avec cette CAN. Au moins, grâce aux 2 derniers matchs qui étaient bien plus intenses et bien meilleurs que ceux que nous avons disputés avant.
L'une des révélations à cette CAN après l'Afrique du Sud, malheureuse finaliste, aurait été le Mali. Des aigles d'âme, après avoir franchi pour la première fois le cap du premier tour, aux dépens du pays hôte, le Ghana et de l'Algérie, échoueront devant le Cameroun dans la bataille pour la 3e place qualificative pour le Mondial 2019 en France. Du regret pour le sélectionneur malien Salomon Mohamed Houssen.
Déçu également, une fierté. Déçu tout simplement ce soir, n'auront pas pu accéder avoir cette dernière ticket pour la qualif à la Coupe du Monde. Nous avons voulu vraiment ce soir faire plaisir aux Maliens, mais ça n'a pas marché. Je pense que ce qui n'a pas marché, jusque l'expérience a pris dessus sur la jeunesse.
C'est justement cette expérience qui a aussi fait défaut au Lyon, battu au tir au but par le Nigeria en demi-finale. Joseph Ndoko, entraîneur du Cameroun.
La valeur émotionnelle, ça reste encore quelque chose sur laquelle on doit beaucoup travailler. Et me rendre aussi compte que les équipes ont progressé. Beaucoup, toutes les équipes ont progressé. Et il y a le souci de développer le jeu. Et ce n'est qu'une bonne chose. Et c'est aussi certainement par rapport au fait que les gens qui encadrent, les entraîneurs qui sont qualifiés aujourd'hui, nous proposent des bonnes choses. Pour le moment, ça va. Les objectifs ont été atteints. Moi, je ne peux qu'être content.
Avec un regard d'observateur avisé, l'ex-capitaine de France a suivi cette compétition, Marcel Desailly.
Il a une énorme marge de progression, que ce soit sur le plan physique, sur le plan technique. Il y a encore besoin de beaucoup de travail. C'est toujours la même histoire, hein. On a besoin d'infrastructures dans les différents pays pour que les filles puissent s'entraîner. Mais je pense qu'il y a une vraie énergie autour du football africain et qui a un potentiel énorme. Il faut aussi que les sponsors viennent pour donner cette dynamique que l'on attend pour le football féminin.
Tété Hadi, Accra, RFI.
Une CAN féminine au Ghana suivie de très près par une ancienne internationale française. C'est Candice Prévost, 4 sélections avec l'équipe de France de football.
Et désormais retirée des terrains, l'ex-attaquante du Paris Saint-Germain a fait le tour du monde et des terrains de foot féminin avec la journaliste et ancienne joueuse également, Mélina Boetti. Depuis un an, elle réalise un reportage qui devrait compter 12 épisodes. L'un d'eux passe donc par l'Afrique et par cette CAN féminine. L'occasion de demander à l'ancienne internationale qu'elle est son sentiment sur cette compétition et notamment sur cette finale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Candice Prévost.
Ils n'étaient pas loin, hein, l'Afrique du Sud. Vraiment, dans le jeu, on sent vraiment que tactiquement, il y a des réponses qui sont offertes aux Nigérianes, qui sont effectivement imbattables à chaque fois dans le jeu. C'était assez équilibré et il suffit de ce petit truc, les pénaltys, la loterie, et voilà, après le Nigeria remporte. Une 9e fois, c'est ça, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant, comme l'Olympique Lyonnais contre toutes les équipes de DR féminine. C'est un peu la même chose, mais bon, c'est comme ça.
C'est comme ça, c'est quand même impressionnant. C'est l'expérience qui joue quand on arrive comme ça au tir au but. Elle passe face aux Camerounaises en demi comme ça, rebelote en finale.
Ouais, tactiquement, je trouve que les réponses du coach, du sélectionneur suédois, nigérian, sont vraiment excellentes. Les joueuses jouent de partout dans le monde, et il y a de ça aussi. Elles vont chercher finalement l'excellence dans leur club. Elles ont cette expérience-là, de l'international aussi, et après, elles le ramènent au Nigeria, et depuis plusieurs années aussi. C'est l'histoire aussi d'une structuration qui est longue, plus longue que les autres, et qui permet aussi d'avoir cette suprématie dans le foot africain.
Plan parfait contre le Cameroun, vous l'avez dit, plan parfait aussi contre les Sud-Africaines. Et pourtant, on les sentait bien, ces Sud-Africaines, bien préparées.
Bon début de match de l'Afrique du Sud, effectivement. Le Nigeria a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Et puis, au fur et à mesure, le Nigeria a repris un petit peu la main sur le jeu, sans pour autant être efficace devant le but. L'Afrique du Sud, pareil. Finalement, elle n'a pas trouvé les réponses devant. On sent vraiment que ce tournoi a été éprouvant, parce que c'est quand même le dernier match. C'est physiquement impressionnant. Je trouve que c'est une intensité folle jusqu'au bout du jeu, jusqu'au bout du match. Je trouve ça exceptionnel, ce rythme qu'elles imposent toutes, hein, finalement. Les Sudaf sont extraordinaires. Elles ont été très très bien préparées. Désirée Ellis a fait un excellent travail de préparation, mais qui n'a pas été suffisant devant le but, parce qu'on a senti un peu les Sudaf un peu émoussés devant le but.
Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces trois équipes ? Nigeria, Afrique du Sud, Cameroun, dans 6 mois maintenant en France pour la Coupe du Monde ?
La Coupe d'Afrique des Nations est assez homogène et après c'est toujours difficile de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire au niveau international sur une compétition comme la Coupe du Monde. Je dirais que le Nigeria a quand même un ton au-dessus par rapport à ses qualités athlétiques, ses qualités tactiques, techniques. C'est beaucoup plus complet. Après, l'Afrique du Sud, si elle travaille autant qu'elle a travaillé pour la Coupe d'Afrique, elles peuvent espérer passer les poules, jouer un quart de finale. Franchement, selon le tirage de sort qui aura lieu le 8 décembre, ça peut jouer. Hein. Ça peut être le facteur aussi chance qui permette aussi à ces équipes de passer quart de finale. Demi-finale, ça me semble plus compliqué, même si le Nigeria peut le faire.
globalement, pour conclure, un mot sur cette CAN féminine. Ça progresse, vous trouvez? Vous, l'ancienne pro, l'ancienne joueuse de l'équipe de France, quel regard vous avez porté sur ces 15 jours passés ici?
Je connaissais pas du tout ce tournoi, je le connaissais pas du tout, je le trouve très très bien, parce qu'en plus la petite finale avait de l'importance et un enjeu très très clair, et je trouve l'ambiance fabuleuse. Un peu dommage que les stades ne soient pas remplis. Il paraît que le Cameroun était sur la dernière édition, était vraiment très très intéressante. Maintenant je trouve ça fabuleux, le niveau, l'homogénéité du jeu. Et puis l'ambiance, c'est fabuleux. Je reviendrai avec plaisir en touriste cette fois-ci.
Candice Prévost, l'ancienne internationale française, au micro d'Olivier Prouin, a noté que la semaine prochaine, elle sera au Japon avant de se rendre en Inde en janvier, toujours pour suivre ce football féminin à travers le monde.
Et allez, puisqu'on parle de foot et d'Afrique, pourquoi ne pas parler de Maxwell Cornet, Antoine? L'attaquant ivoirien, originaire de Brekbo, près de Bingerville, a vécu une semaine riche en émotions avec son club de l'Olympique Lyonnais.
Son doublé mardi en Ligue des Champions face à Manchester City risque en effet de rester dans les mémoires, et même s'il est blessé lundi face à Lille en Ligue 1, il semble enfin avoir trouvé sa place au sein de l'effectif pléthorique des Rodaniens. Cédric de Oliveira.
Les supporters lyonnais ont eu du mal à se remettre de leurs émotions. Mardi, leur équipe a tenu tête au géant Manchester City de partout avec un héros en lumière qui s'appelle Maxwell Cornet, auteur d'un doublé détonnant.
Si on m'avait dit ça avant, j'aurais signé directement. Je suis vraiment content que ça m'ait réussi.
Une soirée de rêve pour l'attaquant ivoirien, souvent cantonné au banc de touche cette saison, et qui en deux titularisations face au Mancunien a marqué trois fois. Une réussite étonnante qui ne surprend pas ses partenaires, à l'image du défenseur Raphaël et du capitaine Nabil Fekir.
Voilà, on connaît tous ses qualités, et il a montré encore qu'on pouvait avoir confiance en lui.
Je suis très très content et très fier de lui, parce que je le connais bien, je sais son potentiel, je sais le mec, et un mec très très professionnel, et il voit grandir, et je sais qu'il va faire tout pour les groupes et pour l'aider tout le monde.
Cette soirée face à City contraste avec un début de saison plus compliqué pour l'ancien Messin. 9 matchs mais seulement une titularisation ce samedi face à Lille. En concurrence avec Memphis Depay, Nabil Fekir, Moussa Dembélé ou encore le Burkinabé Bertrand Traoré, Cornet n'a pas toujours eu les faveurs de Bruno Genesio, même si l'entraîneur lyonnais loue l'état d'esprit de son joueur.
Maxwell est sur la lancée de son entrée à Guingamp, de son entrée contre Saint-Etienne. Ça montre que lorsque on a le bon esprit, même si parfois on rencontre des difficultés, même si parfois c'est difficile, lorsqu'on garde un bon esprit, qu'on travaille, on est récompensé.
Une persévérance qui a fini par payer, alors que Cornet s'est récemment posé des questions sur son avenir à Lyon. Aujourd'hui, son président Jean-Michel Aulas semble ravi de pouvoir compter sur lui.
C'est là où le football est quelquefois injuste. Il faut s'interroger parce qu'on peut passer par des états d'âme et des situations très, très négatives pour se projeter dans des situations plutôt merveilleuses. Et Maxwell, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent.
Ce doublé face à City est peut-être un tournant de la saison pour lui, annoncé partant l'été dernier pour le club allemand de Wolfsburg. Le joueur de 22 ans qui est sous contrat jusqu'en 2021 envisage désormais de prolonger son aventure avec l'OL. Le numéro 27 lyonnais déterminé à poursuivre sur sa lancée.
Ce n'est vraiment pas une revanche, je le prends pas comme ça. Vraiment pas. Juste être décisif, tout simplement, parce que c'est ce qu'on demande à un attaquant. Et montrer tout simplement qu'on peut me faire confiance, au même titre que les autres.
Il faudra pour ça que les blessures le laissent tranquille. Enfin titulaire donc samedi à Lille en Ligue 1, Cornet n'a joué qu'une demi-heure avant de sortir touché aux ischio-jambiers. Pour l'instant, la durée de son absence n'a pas été précisée, mais il lui faudra surmonter ça pour ne pas être stoppé dans son élan, car les échéances sont nombreuses pour son club en Ligue des Champions comme en Ligue 1.
Et en Ligue des Champions, l'échéance c'est le 12 décembre, le match face au Shakhtar Donetsk pour la dernière journée de phase de groupe. Et pourquoi pas une qualification pour l'OL en Ukraine?
Et oui, pourquoi pas. Allez, en basket, petit à petit, le casting du mondial s'affine côté africain. Après le Nigeria, la Tunisie, désormais, l'Angola est qualifiée.
Les Angolais étaient bien partis, ils l'ont confirmé ce soir en battant la Tunisie 69-63. L'Angola assure ainsi sa qualification en décrochant la deuxième place. Par ailleurs, très belle opération du Cameroun dans son groupe E. Les Lions Indomptables devaient battre l'Égypte ce soir pour accrocher la troisième marche du podium et espérer pouvoir finir meilleur troisième, une place synonyme de qualification. Eh bien, C'est fait, ils se sont imposés 80 à 60. Les Camerounais, il faudra maintenant attendre les résultats de l'autre groupe de cette zone Afrique, les 23 et 24 février prochains, pour voir si la République centrafricaine, notamment Chypre, cette place au mondial au Camerounais. En bas du tableau, le Maroc et le Tchad se disputaient pour éviter la dernière place et ce sont les Marocains qui ont eu le dernier mot, victoire 62-45 sur les Tchadiens.
Allez Antoine, on ouvre maintenant notre grande page handball de la soirée. Il n'y en a que pour les filles ce soir, première journée de Coupe d'Afrique des Nations féminines à Brazzaville, Congo, et les favorites sont déjà bien en jambes.
Pas de round d'observation pour l'Angola, champion en titre face à la Guinée. Les Angolaises n'ont pas fait de détails. Victoire 40 à 17, ce qui les propulse d'ores et déjà à la première place de leur groupe B devant le Congo-Brazzaville. Privés de leur binational, empêchés de concourir par la Fédération internationale, les Congolaises ont quand même dominé tranquillement le Maroc 36 à 23. Demain, les Congolaises auront l'occasion de confirmer puisqu'elles affrontent la Guinée. L'Angola sera de repos, tandis que la RDC entrera en lice face aux Marocaines.
Et dans le groupe A, c'est plus serré, mais le Sénégal prend déjà la tête.
Les Sénégalaises disqualifiées de l'édition précédente alors qu'elles s'étaient hissées en demi-finale. Déjà une affaire de binationalité qui concernait la jeune Doungou Camara. À Brazza, les Lions ont parfaitement entamé leur Coupe d'Afrique en dominant le Cameroun 23 à 18. Un succès intéressant pour Frédéric Boujan, le sélectionneur sénégalais.
Pour nous, c'est important de battre une équipe qui est présente au championnat du monde. Très très important. Voilà, demain, on a la Tunisie qui arrive, qui est à nouveau une grande nation. Donc on démarre la compétition avec deux adversaires de grande qualité. Donc on a l'ambition, avant d'avoir les deux jours de repos, on a l'ambition de faire deux très gros matchs, voilà, pour essayer de prendre la tête de la poule. Et on s'est préparé en conséquence depuis le mois de mars avec beaucoup de sérieux. Donc je profite de l'occasion pour remercier mes dirigeants qui nous ont accompagnés toute l'année, qui nous ont donné des conditions pour se préparer pour cette compétition digne des meilleures équipes. Voilà.
Et côté camerounais, Serge Magala, l'autre sélectionneur, regrettait le manque de précision de son attaque dans les dernières phases de jeu.
Avant tout propos, je félicite l'équipe du Sénégal qui était bien en place. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que les joueurs ont un peu pêché au niveau des tirs à 6 mètres. C'est des éléments qu'on a travaillé, mais elles ne sont pas sorties d'elles. Tout est resté dans le ventre, quoi, comme on dit chez nous. Défensivement, ça marchait. Offensivement, ça marchait, on a trouvé des solutions, mais c'est à 6 mètres, n'est-ce pas, que nous perdons notre match parce qu'on ne concrétise pas dans nos tirs.
Serge Magala, le sélectionneur camerounais, au micro de Jean-Ruffin Wemba. Dans l'autre rencontre de ce groupe, à l'Algérie, a dominé la Côte d'Ivoire 27-24. Demain, les Algériennes affrontent les Camerounaises, tandis que les Sénégalaises affronteront les Tunisiennes.
Merci Antoine Grenier, on vous retrouve dans un instant. Handball toujours dans Mondial Sport, on quitte le Congo, la CAN et l'Afrique pour l'Europe et l'Euro 2018 féminin qui se poursuit en France et qui ne s'arrêtera pas à Nancy pour l'équipe de France puisque c'est désormais acquis. Les Bleus sont qualifiés pour le tour principal, une place validée sans trop de soucis après une nette victoire sur la Slovénie 30 à 21 lors du deuxième match du tour préliminaire. Christophe Diremzian, bonsoir.
Bonsoir Martin.
Alors Christophe, les Françaises ont lancé leur compétition pour de bon.
Oui, d'une manière qui a fait rapidement comprendre que le succès ne leur échapperait pas, avec une qualité d'attaque bien supérieure au match d'ouverture, beaucoup moins de gâchis sur les montées de balles que contre la Russie, et une stratégie défensive gagnante sur Adagros, le danger de la Slovénie, l'arrière droite bridée, 5 buts seulement en 12 tirs au total. Les Françaises, elles, en étaient déjà à 17 à la pause, et Grace Zahadi n'y était pas pour rien, 6 buts inscrits dans ce match pour la demi-centre, meilleure marqueuse de la rencontre, et heureuse à la fois du résultat et de la manière.
C'est une victoire qui fait du bien parce qu'on a su rebondir après le match de la Russie, on s'est regardé droit dans les yeux, on s'est dit certaines choses et c'est bien, je suis contente qu'on ait pu concrétiser par ce match-là. Dès le début, on les a impactés défensivement et on a récupéré des ballons qui nous ont permis de nous projeter vers l'avant et marquer des buts sur montée de balle. Je crois que leur premier but doit venir après 13 minutes, donc on a quand même bien défendu, donc j'aimerais quand même qu'on puisse noter que c'est nous qui nous sommes rendus ce match-là facile.
Une victoire qui a aussi permis de montrer le meilleur visage des Bleus, selon Olivier Krumbholz, celui masqué par la puissance physique de la Russie. Le sélectionneur tricolore satisfait d'avoir vu ses joueuses enfin libérées.
Il y avait de la sérénité, je pense qu'elles ont compris que contre les Russes, elles étaient stressées, elles se sont précipitées, elles n'étaient pas lucides, elles ne voyaient pas les grosses solutions. Là, on a pris le temps de maîtriser les vitesses de course et d'avoir de très grosses solutions
en fin de montée de balle. Bon, c'est vrai que c'est pas le repli des Russes, c'est pas la montée de balle des Russes, bien sûr, mais voilà, il était important de remettre les choses à leur place et on ne peut pas être étonné que cette équipe ait été championne du monde. C'est l'équipe championne du monde qui a joué aujourd'hui.
Une équipe championne du monde, Christophe, mais encore loin d'un premier titre européen, surtout si elle commet un nouveau faux pas.
Oui, on va repréciser la formule de l'Euro hein, pour bien comprendre. Trois équipes sur quatre qualifiées pour le tour principal dans chacun des quatre groupes. Mais ces équipes ne garderont pas les points obtenus contre l'équipe éliminée. Cas pratique avec la France, elle a deux points ce soir. Mais comme il y a fort à parier que la Slovénie, déjà plombée par deux défaites, ne passera pas, les Bleus doivent donc impérativement battre le Monténégro mardi pour attaquer ce tour principal à Nantes avec au moins ces deux points. Sinon, avec zéro point, eh bien les demi-finales seraient a priori déjà compromises. Et cette perspective-là, ça démotiverait complètement la polyvalente arrière ou demi-centre Estelle Zeminko.
D'être qualifiée à Nantes, et si on perd le Monténégro, c'est cool quoi d'aller à Nantes. Mais bon, moi j'y habite en plus, donc tu vois, j'ai pas besoin d'y aller avec l'équipe de France. Quoi. Mais ouais, il faut y aller avec plus de points, quoi. Sinon ça sert à rien, quoi. Entre guillemets, bien sûr. C'est une belle première victoire, mais voilà, pour moi, c'est la moitié du chemin, là, vraiment. Et dans la tête de tout le monde, c'est pareil, c'est bien. Mais il faut gagner mardi.
Hein. Gagner face au Monténégro, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Les championnes d'Europe 2012 réalisent un bon début de tournoi, puisqu'après avoir battu la Slovénie, elles aussi, elles se sont inclinées d'un but cet après-midi face aux Russes, 24-23. Mais elles ont mené au score une bonne partie de la rencontre. La Russie, elle, est également qualifiée avec ses deux succès.
Allez, pour finir, Christophe, un rapide point sur les autres groupes. Commencer par le groupe A où figurent les adversaires des Françaises lors du tour principal.
Oui, et les Danoises en font déjà partie. Deux victoires à leur actif sur la Suède et Pologne. Ticket pour le tour principal également en poche. Qualification également de la Serbie. Dans les groupes C et D, pas encore de qualifiés. Hein, les équipes n'ont joué qu'un seul match. Mais une surprise hier dans le groupe D, la défaite des tenantes du titre. Les Norvégiennes, 11 sacres continentaux, battues par l'Allemagne 33-32. Comme les Françaises, elles ont donc grillé un joker et vont donc devoir réaliser un sans faute maintenant si elles veulent accéder au dernier carré à Bercy.
Eh bien, merci beaucoup pour ce point très complet, Christophe Diremsian. Du foot en Europe avec le tirage au sort des éliminatoires pour l'Euro 2020. Et il est déjà de retour, il a retourné sa casquette africaine pour redevenir le spécialiste équipe de France de RFI. Revoilà Antoine Grenier. Et on peut le dire, Antoine, la France a eu de la chance au tirage, la route vers l'Euro semble déjà tracée.
Et les partisans de la théorie qui veut que Didier Deschamps est heureux au tirage auront encore un peu de grain à moudre grâce à l'UEFA. Les Français héritent d'un groupe H largement à leur portée. Leurs adversaires se nomment l'Islande, la Turquie, l'Albanie, la Moldavie et Andorre, autant dire loin d'être des monstres redoutables. Le mieux placé est 37e au classement FIFA, ce sont les Islandais. Et aucune de ces nations n'a jamais battu les Bleus en compétition officielle. Seule l'Albanie a dominé les Français, c'était en amical il y a 3 ans, en 2015, 1-0, score final.
Et les Français qui retrouvent tout de même un adversaire qu'ils connaissent bien sur leur route, c'est l'Islande, adversaire des Bleus en quart de finale de l'Euro 2016, qu'ils ont joué il y a peu en amical, et vous y étiez Antoine.
Oui, c'est un peu des adversaires qu'on aime, hein, ces Islandais révélés en terre française lors de cet Euro, vous le disiez, pour leur première compétition internationale jusqu'au quart de finale face à la France, remportée 5-2 par les joueurs de Didier Deschamps. Les Français ont profité de l'Euro d'ailleurs pour piquer aux Islandais le clapping, hein. Vous savez, ces acclamations effectuées sous la forme d'applaudissements qui accélère progressivement. Je sais que vous le maîtrisez comme personne. Bah, c'est devenu un peu une habitude des supporters bleus. Alors, quant aux retrouvailles entre la France et l'Islande, c'était effectivement à Guingamp, en octobre, en amical. Et les Islandais ont bien failli jouer un mauvais tour aux champions du monde avec des buts de Bjarnason et Arnason. Au bout d'une heure, les bleus étaient menés 2-0, un peu à la surprise générale. Mais quand il s'agit de chasser les doutes, qui est-ce qu'on appelle? Bah, on appelle Kylian Mbappé, qui entre à la 60e et change le cours du match à lui tout seul. Un but contre son camp provoqué par le Parisien, puis un but pour lui tout seul, de partout, score final. Les Français sont prévenus, l'Islande, c'est compliqué en amical, alors méfiance en éliminatoire de l'Euro.
Et Antoine, même si c'est peu plausible, en cas de gros loupé, si la France ne finit pas dans les deux premiers de son groupe, il restera une petite chance de se qualifier via un barrage organisé dans la Ligue des Nations.
Oui, c'est la nouveauté pour cette édition de l'Euro 2020. Alors qu'ils ont abandonné toute chance de gagner cette Ligue des Nations, les Pays-Bas les ayant éliminés, les Bleus, mais d'autres nations aussi, peuvent se qualifier via des barrages. En mars 2020, dans chacune des quatre divisions, des barrages sont organisés entre les quatre équipes les mieux classées. En clair, si les Français ne se qualifient pas lors de la voie normale, les éliminatoires, ces matchs de barrage leur offriront une nouvelle chance.
Allez, Antoine Grenier, merci beaucoup. Cette fois, je vous laisse tranquille, je vous laisse aller vous coucher. Et on s'est gardé une très belle cerise sur le gâteau pour conclure ce Mondial Sport. C'est le Ballon d'Or, tant attendu par les 30 nommés et tant attendu par les fans de ballon rond. Eh bien, le Ballon d'Or, c'est demain, remis ce lundi 3 décembre à Paris. Une récompense chasse gardée depuis 10 ans des deux superstars du sport roi, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans cette année de Coupe du Monde, le vent pourrait tourner. Les champions du monde français ont le vent en poupe, comme Antoine Griezmann. Parmi les grands favoris, on retrouve aussi le croate Luka Modric, meilleur joueur FIFA et UEFA de l'année. Griezmann et Modric, deux joueurs évoluant à Madrid. L'un à l'Atlético, l'autre au Real. Griezmann et Modric qui divisent donc la capitale espagnole, qui retient son souffle dans l'attente du verdict à Madrid. Le reportage de Pierre Chaperon.
C'est bon, on verra, j'espère. Bien sûr, qui veut pas l'avoir? Je crois que tout le monde veut l'avoir. Tout le monde l'a dans sa tête. Et même quand t'as 18 ans, que t'arrives au centre de formation, que tu fais tes pas, tout le monde le souhaite.
Bien sûr qu'Antoine Griezmann rêve de ce Ballon d'Or 2018. Bien sûr qu'il en a fait un objectif de cette fin d'année. Lui, champion du monde, vainqueur de la Ligue Europa, et à chaque fois élu meilleur joueur de ces deux finales. En plus des supporters de l'équipe de France et de l'Atlético, le Français peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, comme Lucas Hernandez.
C'est pas le footballeur qui décide, c'est vous les journalistes. Voilà, c'est vrai qu'il a fait une énorme saison, il a été déterminant dans tout ce qu'il a fait, et voilà, je pense qu'il le mérite cette année. Après, s'il le donne pas, je sais pas, je pense que voilà, c'est vrai que c'est vous les journalistes qui voyez le foot d'une autre manière peut-être, mais je pense que cette année c'est lui qui doit l'avoir. Pour moi c'est le candidat numéro 1. Ça fait déjà quelques temps qu'il fait la différence ici, et voilà, je pense que les journalistes ils sont en train de le voir, et j'espère qu'ils vont voter pour lui.
Antoine Griezmann en campagne, multiplication d'interviews en Espagne, en France ou encore en Amérique latine entre autres. Le numéro 7 n'a pas chômé pour convaincre le jury du Ballon d'Or. Un contraste saisissant avec celui que l'on annonce comme le grand favori, Luka Modric, discret dans les médias. Le milieu de terrain croate du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions et vice-champion du monde, a préféré s'exprimer sur le terrain plutôt que dans la presse. Une attitude en adéquation avec sa mentalité, comme l'explique Miro Dobrasin, correspondant à Madrid de l'agence de presse croate RINA.
Si on compare Luka Modric à d'autres joueurs, on peut dire qu'il est plutôt tranquille. C'est surprenant par rapport à d'autres. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait de campagne pour ce Ballon d'Or et il n'a pas beaucoup parlé non plus de ce prix. Bon, évidemment, il a dit qu'il aimerait le gagner, bien sûr, que c'est un prix très important et qu'il serait vraiment très content de l'avoir. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien la vie continue pour lui et que sa priorité, c'est le travail en équipe. D'ailleurs, il se pense plus comme une pièce dans un puzzle. Il privilégie plus l'équipe que sa propre personne.
Mais qu'on ne s'y trompe pas, Modric a ses supporters. Au premier rang, son entraîneur au Real, Santiago Solari, qui ne tarit pas d'éloges.
C'est un joueur exceptionnel et il l'a démontré tout au long de sa carrière, et pas seulement au Real Madrid, mais aussi avant de venir ici, et en sélection également. C'est un exemple de dépassement de soi. Il a dû grandir dans un contexte très très dur et très difficile. Et je me demande si tout ça ne l'a pas aidé à avoir un tel caractère. Ses qualités, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles sont bien là.
Au final, une bataille entre le Real et l'Atlético semble se dessiner pour ce Ballon d'Or, à moins que Messi et Ronaldo déjouent tous les pronostics. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Messi et Ronaldo qui pourraient déjouer les pronostics, mais ne pas oublier non plus les Français Raphaël Varane et Kylian Mbappé, qui pourraient créer la surprise. Réponse demain soir à Paris. Un verdict que vous pourrez suivre sur RFI avec une émission spéciale de Radio Foot International, à suivre à partir de 21h10, temps universel. Allez, on termine Mondial Sport par un petit tour des stades européens en football. Jour de derby en Angleterre, c'était la guerre des voisins avec deux matchs fous d'abord dans le nord à Londres, Arsenal-Tottenham, que les Gunners remportent 4-2 après avoir été menés au score grâce au but vainqueur d'Alexandre Lacazette et à un doublé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Et puis victoire sur le fil de Liverpool dans le derby de la Mersey avec un but de Divock Origi à la 96e minute face à Everton. Et puis en France, coup d'arrêt pour le Paris Saint-Germain. La série s'arrête à 14 victoires de suite. Paris qui fait match nul de partout à Bordeaux. Neymar et Mbappé avaient pourtant marqué, mais Briand et Cornelius ont égalisé. Paris qui est tout de même sacré champion d'automne. Tandis que Marseille n'a pas pu faire mieux que 0-0 à domicile face à Reims après la claque 4-0 reçue cette semaine en Coupe d'Europe à Francfort. Allez, c'est la fin de ce Mondial Sport. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Merci à Hélène Avril à la réalisation. Et n'oubliez pas, demain, émission spéciale pour la remise du Ballon d'Or Radio Foot à partir de 21h10. Temps universel. Bonne nuit à tous.